J'espère que vous êtes bien réveillés maintenant. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. De toute façon, même si vous n'étiez pas réveillés, j'avais l'intention de vous secouer un peu. Comme ça, ça va nous réveiller un petit peu. Mais quand vous êtes réveillés, je vais quand même vous secouer. Après tout, tant que vous êtes debout, je vais vous inviter à tourner dans le livre des Psaumes, au chapitre 42. Et on va lire les versets 2 et 3. Psaume 42, versets 2 et 3. Le psalmiste, dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et la première partie du verset 3, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Je vais relire ces versets. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Mon âme a soif de Dieu. Ce matin, on va parler de réveil. On va parler du réveil. Ce mot réveil, c'est un thème, j'ai appelé pentecôtisto-apostolique. Ce mot réveil, dans quasiment toutes les églises, on en parle. On le prêche, on l'enseigne. On le nomme, on en parle, on entend parler de réveil partout. Mais ce mot réveil, est-ce qu'on se souvient de ce que ce mot signifie vraiment? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade où on parle tellement de réveil, où on prêche tellement de réveil, où on enseigne tellement sur le réveil, où on bombarde tellement les églises avec le réveil, que la plupart des chrétiens ne savent même plus ce que le mot réveil signifie vraiment? Peut-être on est arrivé à un point où ce mot a perdu toute sa signification, il a perdu tout son sens. Et la question ce matin, c'est est-ce que je sais, est-ce que je me souviens de ce que ce mot « réveil » veut dire? Est-ce que ce mot pour moi a toujours tout son sens? Est-ce que ce mot pour moi a toujours toute sa signification? Est-ce que ce mot « réveil » est toujours réveillé dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce que ce mot « réveil » est toujours là? Est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce que la plénitude, tout ce que cache ce mot « réveil », est-ce que je suis encore conscient de tout ce qui se cache, de tout ce que renferme ce mot « réveil » ? Je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, ça n'est pas, ou peut-être je devrais dire, ça n'est plus le réveil. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une passion, un feu, un désir ardent pour le réveil. Le réveil, il est là. On le voit. Le réveil, il est là. Mais ce qu'on a besoin, c'est une passion ardente pour ce réveil. Ce qu'on a besoin, c'est un feu qui brûle pour les âmes qui sont perdues. Un feu qui brûle pour le salut de ceux qui sont dehors. Un feu qui brûle et qui nous pousse jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, à poursuivre ce réveil, à chercher ce réveil, à désirer ce réveil, à vouloir faire partie de ce réveil. Le verset qu'on a lu, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » On doit avoir une passion pour le réveil, plus que le besoin de boire, plus que le besoin de manger, plus que le besoin de dormir. Ça doit être pour nous plus ardent, plus fort dans notre cœur que notre travail, que notre famille, que notre voiture, que nos voisins, que nos amis, que nos hobbies. On doit vivre pour le réveil. Chaque seconde de la journée, on doit avoir cette passion pour le réveil. Dans Genèse chapitre 26, on peut voir l'histoire d'Isaac qui quitte le pays d'Abimalek et qui doit recreuser les puits que son père Abraham a creusés en allant dans le pays d'Abimalek. Abraham avait dû quitter son pays et en chemin il avait creusé des puits pour pouvoir nourrir pour pouvoir abreuver ses troupeaux, pour pouvoir faire que ses serviteurs, que sa famille aient à boire. Et les Philistins sont passés derrière Abraham, ont rebouché tous ces puits et Isaac, lui, quitte le pays d'Abimalek pour retourner dans le pays que Dieu a promis. Et alors, il doit recreuser tous ses puits. Et donc, Isaac, il sait ce que ça veut dire que de réveiller quelque chose, que de ramener à la vie quelque chose, que de devoir faire que quelque chose qui était là et qui n'est plus soit à nouveau comme c'était avant. Et en voyant tous ces puits comblés, pleins de poussière, pleins de débris qui avaient été rebouchés par les Philistins, Isaac aurait pu laisser tomber, il aurait pu dire, ben c'est pas grave, je vais aller avoir ailleurs. Je vais aller ailleurs, je vais prendre d'autres chemins, je vais creuser d'autres puits. Mais s'il avait fait ça, les puits qu'il aurait creusés, le chemin qu'il aurait pris, le pays où il serait allé, ça ne serait plus le pays que Dieu avait promis à son père. Ça n'était plus le pays que Dieu avait donné en héritage à Abraham et à toute sa descendance. Et donc Isaac, il a pris cette promesse. Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il allait lui donner un pays, qu'il allait lui donner une descendance qui serait tellement nombreuse qu'on ne pourrait plus la compter. Et donc Isaac a pris cette promesse pour lui aussi. Et il a reconstruit, il a recreusé les puits que son père avait creusés. Et peut-être ce matin est-il temps pour nous de faire comme Isaac et de recreuser certains puits. Peut-être est-il temps pour nous de recreuser certaines sources d'eau vive. Peut-être est-il temps pour nous de recreuser les puits du pentecôtisme, comme au jour de la Pentecôte. Peut-être il est temps pour nous de recreuser les puits de la puissance, de l'agissement du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre Église, dans cette ville. Peut-être on a laissé ces puits ont été bouchés par l'ennemi, par les Philistins qui sont passés derrière nous. Mais je suis venu nous dire, frères et sœurs, qu'il est temps pour nous de recreuser ces puits. Il est temps pour nous de recreuser le puits de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, dans notre vie, dans cette Église. Il est temps pour nous de recreuser le puits de la passion pour les âmes, de la passion pour le réveil, de la passion pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. On peut dire on est ici depuis 12 ans et on a un petit résultat. On est 28 ce matin, je compte tous les dimanches. Aujourd'hui on est 28. Et on peut se dire on n'est pas beaucoup après 12 ans. Mais on a reçu une promesse. On a reçu une promesse. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Et cette promesse, c'est plus qu'assez. Cette promesse, c'est suffisant. Parce que Dieu, quand il donne sa parole, il est fidèle. Il n'est pas comme nous. Parfois, nous, on donne une promesse et puis finalement, ça ne tourne pas comme on voulait et on ne peut plus tenir notre promesse. Mais Dieu, quand il donne une promesse, il tient sa promesse. Quand il donne sa parole, il tient sa parole. Et si Dieu a dit qu'il a un peuple nombreux dans cette ville, c'est parce qu'il a un peuple nombreux dans cette ville. Si Dieu nous a donné cette promesse, c'est parce que ça va arriver. Et c'est suffisant pour nous, à nous de recreuser les puits de notre engagement, de notre fidélité aux réunions, de la fidélité, que ce soit le jeudi, que ce soit le dimanche. Les puits de notre fidélité dans notre vie de prière, les puits de notre fidélité aussi dans nos finances, dans nos prières, dans tout ce que l'Église a besoin, parce qu'on a une promesse. Et c'est suffisant pour nous. Isaac s'est contenté de la promesse que Dieu a donnée à son père pour recreuser tous ses puits. À nous de nous tenir à cette promesse que nous avons reçue de Dieu et de recreuser les puits, de recreuser le puits du salut de cette ville. Alléluia. J'ai l'impression de vous ennuyer ce matin, c'est monstrueux. Dans le peuple juif, Il y a une tradition au sujet du mariage. Et donc à l'époque, c'est les parents qui, la plupart du temps, quasiment tout le temps, c'est les parents qui s'occupaient de préparer le mariage, d'arranger la fête et tout ça. Et alors les parents des deux futurs époux se réunissaient et puis ça discutait. Et une fois qu'ils avaient trouvé un accord, alors commençait ce qu'on appelle la période des fiançailles. Et donc durant cette période, le jeune couple qui allait plus tard se marier passe par une petite cérémonie où ils s'échangeaient l'un l'autre des vœux. C'était une sorte d'engagement pour dire « c'est toi que je veux épouser ». Donc, je vais faire ce qu'il faut pour que je puisse t'épouser. Et après cette cérémonie, le futur mari allait acheter un terrain, il allait acheter une maison, et il allait préparer tout ça pour que ça soit une jolie maison avec un joli terrain pour sa future femme. Et une fois qu'il avait fini ça, de préparer la maison et tout ça, parfois ça pouvait prendre des mois, et une fois qu'il avait fini tout ça, alors on pouvait avoir la fête nuptiale, il pouvait enfin célébrer et marier les deux jeunes pour qu'ils soient mariés et femmes. Et cette fête nuptiale durait à peu près une semaine. Et toute la communauté, tout le quartier, tout le village ou la ville où ils habitaient participait à la fête pour le mariage. Et donc cette fête commençait lorsque le futur mari, accompagné de ses témoins, traversait toute la ville vers la maison du père de sa future femme, où elle l'attendait avec ses demoiselles d'honneur. Donc elle était là et elle attendait que son futur époux vienne la chercher. Et ensuite, ensemble, donc les futurs époux et puis les témoins, les demoiselles d'honneur, faisaient une sorte de parade dans toute la ville pour annoncer à chacun qu'ils allaient se marier. Et cette parade avait l'habitude de se passer de nuit. C'est un petit peu plus romantique, hein. Donc on allumait des torches et ils avaient des flammes et tout pour illuminer le chemin là où les futurs mariés passaient. Et donc après, ils faisaient la fête pour célébrer le mariage. Et à la fin de la fête, le témoin du mari prenait la main de la mariée, la mettait dans la main du mari et on les conduisait vers la chambre nuptiale où ils allaient pouvoir consommer leur nouvelle relation en tant que mari et femme. Et ça nous amène à la parabole des 10 vierges. La Bible dit qu'il y avait 5 folles et qu'il y avait 5 sages. Et donc ces 10 vierges attendent le futur mari qui doit venir les chercher selon la tradition. Et on dirait que ce futur époux a légèrement postposé ou a volontairement retardé son arrivée. Et donc ces vierges s'endorment. Et elles sont réveillées au milieu de la nuit par l'arrivée du marié. On vient leur dire « Réveillez-vous, réveillez-vous, préparez-vous, le marié arrive, il est en route, il arrive. » Et donc elles sont réveillées. Et 5 des vierges, elles avaient toutes des lampes. Et donc 5 de ces vierges ont allumé leurs lampes et leurs lampes se sont allumées tout de suite. Et les 5 autres apparemment avaient plus de mal à allumer leurs lampes. Les lampes avaient la même apparence, c'était les mêmes lampes. Elles avaient la même contenance, elles avaient toutes le même type de mèche, et elles avaient toute l'apparence d'être prêtes quand on allait les allumer. Mais 5 d'entre elles n'avaient plus d'huile. 5 étaient pleines d'huile, elles se sont allumées tout de suite, les 5 autres n'avaient plus d'huile. Elles étaient toutes pareilles. Il n'y avait rien qui permettait de dire « celle-là va s'allumer, celle-là ne va pas s'allumer ». Elles étaient toutes identiques. Mais 5 ne se sont pas allumés. N'attendons pas l'annonce de l'arrivée du mari pour être prêts. N'attendons pas d'être réveillés au milieu de la nuit, qu'on nous dise « le mari arrive, Jésus arrive » pour se dire « est-ce que je suis prêt ? Est-ce que j'ai de l'huile dans ma lampe ? Est-ce que ma lampe va s'allumer pour que je puisse suivre l'époux aux noces ?» C'est maintenant qu'il faut être prêt. Pas quand on va entendre que Jésus arrive, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'on doit être sûr que nos lampes sont pleines d'huile et que quand on va entendre qu'il arrive, on pourra les allumer tout de suite. J'aimerais qu'on remarque la réponse. Si on lit la parabole et on voit ces vierges qui sont 10 sages. Français, ça. La Bible dit que ces cinq vierges autres, les autres là, étaient sages, celles qui avaient de l'huile. Et en fait, celles qui n'avaient plus d'huile vont vers les autres qui ont de l'huile et disent « Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'huile parce que nous, on n'en a plus ?» Et ces cinq vierges sages répondent « Si on vous donne de l'huile, on n'en aura plus assez pour nous. » Et je me suis posé la question, est-ce que ces sages étaient vraiment aussi sages que ça? Elles avaient juste assez d'huile pour leur lampe. Est-ce que notre Église a juste assez d'huile pour notre lampe? Ou est-ce qu'on a plus qu'assez d'huile? Est-ce qu'on a plus qu'en suffisance? Est-ce qu'on a de l'huile en abondance, bien au-delà de nos propres besoins, pour que ceux qui viennent de dehors, quand ils vont rentrer, ils puissent être saisis par la puissance de cette huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Est-ce que notre Église a assez d'huile, de la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous, pour que les gens qui vont rentrer puissent être saisis par cette puissance? Ou est-ce qu'on a juste assez pour nous? Le plus grand ennemi de l'Église à l'heure actuelle, c'est l'apathie. L'apathie, c'est quoi? L'apathie, c'est l'incapacité d'être ému ou de réagir. Plus rien ne nous motive, plus rien ne nous enthousiasme, plus rien ne nous donne le sourire, plus rien ne nous encourage. C'est l'apathie. On est dans un état de satisfaction totale. On est installé dans une routine, enchaîné dans un esclavage que l'on trouve même confortable, on fait ce qu'on a toujours fait, de la manière où on l'a toujours fait, et on n'y met que ce qui est nécessaire. Rien de plus, rien de moins. Mais je vais nous poser une question. Et si Jésus avait été apathique? Et si il avait fait juste ce qui est nécessaire? Ni plus, ni moins. Il a mis tout ce qu'il avait dans l'œuvre qu'il est venu faire, parce qu'il était poussé par une passion. Il était poussé par un désir ardent. Il était poussé par un feu qui le dévorait à l'intérieur. Il était poussé par cette force parce qu'il voulait accomplir cette œuvre jusqu'au bout, parce qu'il était venu pour sauver l'humanité, pour sauver chacun d'entre nous. Nous ne serions pas là si Jésus avait fait le strict nécessaire, s'il avait été comme ces vierges sales, juste avec assez d'huile pour lui et pas pour les autres. Il se serait sauvé lui-même et nous. Nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes ici dans ce lieu ce matin parce que Dieu a investi en nous un ou plusieurs talents qu'il veut utiliser pour sa gloire. Des talents qu'il veut utiliser à travers nous pour atteindre l'humanité qui est perdue. Pas pour chauffer une chaise, pas pour venir le jeudi pour dire j'étais là jeudi, pas pour venir le dimanche et dire j'étais là dimanche, il a bien prêché Florent. Dieu a investi en nous une partie de sa puissance, une partie de sa nature, une partie de ce qu'il est, pour que nous puissions partager avec les autres ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu est et qu'est-ce qu'il peut faire. On a une œuvre ce matin. On a un travail à accomplir. On doit atteindre. J'ai marqué le monde. C'est peut-être un peu prétentieux. On va dire nivelle. On doit atteindre Nivelle, perdu. Ce matin, dans Nivelle, il n'y a même pas 28 qui sont sauvés parce qu'on ne vient pas tous de Nivelle. Nous devons atteindre Nivelle, perdu, avec la bonne nouvelle du salut. Mais pour accomplir cette œuvre, on a besoin d'une chose, la passion. On a besoin de cette passion. On a besoin d'un feu ardent qui brûle dans nos cœurs, qui nous pousse, qui nous émeut, quelque chose qui bouille à l'intérieur quand on voit ces gens dehors qui sont perdus. Ça doit nous empêcher de dormir, ça doit nous empêcher de manger, de boire. Ça doit nous empêcher peut-être même d'aller travailler, de pouvoir penser de manière claire. Parce qu'il y a tous ces gens dehors qui sont perdus. Et nous, on est là à chauffer une chaise tous les dimanches. Dieu ne fait pas attention si je suis riche, si mon père est célèbre, si ma mère est célèbre, si je suis à la tête d'un patrimoine immobilier très important, si je suis l'homme le plus riche du monde, si je suis président de la République ou maître du monde. Dieu ne regarde même pas si je suis talentueux ou habile. Dieu, tout ce qu'il cherche, c'est un homme, une femme, des hommes, des femmes, avec une passion, avec un désir ardent. Je veux sauver une âme. C'est tout ce qui importe. Pas mon compte en banque, pas ma voiture, pas ma maison, pas ma famille. Ce désir, cette passion qui brûle de vouloir sauver ne serait-ce qu'une seule âme. La plus grande tragédie pour notre âme, c'est de perdre cette passion, de perdre ce désir, de perdre cette réalité au sujet de ce que Jésus a fait pour nous, au sujet de ce que Jésus a fait pour moi. Au sujet de cette passion, de cette émotion, de savoir ce que ça fait d'être sauvé, de savoir ce que ça fait de réaliser, d'être vraiment comprendre à quel point le prix que ça représente, l'importance du prix que Jésus a payé sur la croix. Le jour où je perds cette réalité, le jour où je perds cette passion, le jour où je n'ai plus cette notion de savoir à quel point c'est important ce que Jésus a fait pour moi sur la croix, j'ai tout perdu. Le jour où je ne réalise plus l'importance du sang qui a été versé, j'ai tout perdu. Ça n'a pas d'importance si notre église est encore à moitié vide. Ça n'a pas d'importance si les membres de ma famille pour qui je prie ne sont pas encore là. Ça n'a pas d'importance si les amis qui m'ont promis de venir ne sont pas venus. Peu importe si je ne suis pas encore là où je veux être dans ma marche avec Dieu. Peu importe si je ne vois pas les miracles que je voudrais voir. Si je n'ai pas les guérisons dont j'ai besoin. Si je n'ai pas les réponses aux prières dont j'ai besoin. Ce qui importe, c'est qu'en moi brûle cette passion. Ce qui importe, c'est qu'en moi, il y ait ce feu qui brûle pour l'œuvre de Dieu, pour les âmes, pour son Église, une faim. Une soif, une passion qui me dévore, qui m'empêche de dormir, une passion intarissable, qui brûle, qui brûle, qui brûle. Le reste n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est cette passion. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas voulu se prosterner devant le roi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait faire chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Ces jeunes avaient une passion pour Dieu. Et si aujourd'hui, nous décidions, si ce roi a fait chauffer la fournaise 7 fois plus fort pour vouloir tuer ces jeunes, pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas chauffer notre fournaise, notre passion, notre feu encore plus fort pour les âmes qui sont perdues, pour cette église au milieu de Nivelles, pour que cette ville reçoive le salut? Ce monde n'a pas besoin d'une autre église, notre ville n'a pas besoin d'encore une église, d'encore une religion, d'un autre Jésus. Cette ville a besoin d'une passion. Cette ville a besoin de voir qu'il y a des hommes, des femmes qui sont passionnés, en qui brûle un feu ardent, qui ont une... C'est tout ce pourquoi ils vivent, c'est leur passion. C'est ça qui va saisir ces gens quand ils vont entrer dans notre église. Si nous sommes passionnés pour les âmes, dès qu'ils vont rentrer, ils vont le sentir. Ils vont ressentir que c'est ici qu'ils vont trouver ce dont ils ont besoin, pas ailleurs. Mais pour ça, on doit être passionné. Notre passion, ça doit être notre vision pour 2008 et pour 2009 et pour 2010 et pour 2011 et pour toutes les années après. C'est ça qui doit être notre passion. La passion, c'est ce qui a motivé, c'est ce qui a conduit tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu qu'on peut lire dans la Bible. Et dont on parle aussi dans l'histoire de l'église pentecôtiste. Si on prend l'exemple de l'histoire de David, David était encore un gamin quand il a été envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères. Ses frères étaient dans l'armée de Saül. Et ils étaient en guerre avec les Philistins. Et donc le père de David l'a envoyé avec un peu de nourriture et leur a dit, va voir un peu comment ça va avec tes frères. Va voir un petit peu si tout va bien. Et donc David arrive là-bas, petit gamin qui va prendre des nouvelles de ses frères. Et alors il voit qu'il y a ce géant qui défie le peuple. Il parle à ses frères, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez la trouille? Et alors ses frères se demandent un petit peu, mais pour qui il se prend celui-là? C'est qu'un petit gamin, donc dis-toi un petit peu, c'est pour qui tu te prends? C'est nous les guerriers, c'est nous les soldats. Et Goliath est là à défier l'armée du peuple d'Israël. Et David, il est là, mais enfin, c'est un non-sens. Et alors, il voit que tout le monde a la trouille, tous les soldats se cachent. Même le roi Saül, qui était plus grand que tous ses soldats, même lui, il avait la trouille, il se cachait. Mais David, lui, il n'avait pas peur. David, lui, il voyait au-delà de cette situation. David, il avait quelque chose en lui de différent. Il avait quelque chose qui faisait qu'il n'avait pas peur. Et c'est lui qui a battu Goliath. Et David, ce qu'il avait, c'était une passion. Il avait une passion. Il vivait pour Dieu, rien d'autre. C'était sa passion. Il vivait pour ça jour après jour, nuit après nuit. C'est pour ça qu'il a réussi à accomplir tout ce qu'on lit au sujet de lui dans la Bible. Et tous les grands hommes, toutes les grandes femmes de Dieu dans la Bible, tous les grands prédicateurs, les grands pasteurs dont on parle aujourd'hui, on parle d'eux à cause de leur passion. C'est à cause de ça qu'on se souvient d'eux. C'est à cause de leur passion. Quand je serai mort, on s'en souviendra de moi en fonction des choses pour lesquelles j'étais passionné. Est-ce qu'on se souviendra de moi parce que j'aime bien les belles voitures? Est-ce qu'on se souviendra de moi parce que je suis passionné d'ordinateur? Est-ce qu'on se souviendra de moi parce que j'étais un mari aimant, un futur papa formidable? Ou est-ce qu'on se souviendra de moi parce que j'avais une passion pour l'œuvre de Dieu, une passion pour les âmes, une passion pour l'Église, une passion pour son œuvre? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous quand on sera mort? Est-ce qu'on va laisser un souvenir de quelqu'un qui était apathique ou de quelqu'un qui était passionné? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi ce matin? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? On dit depuis le début de l'année que cette année sera une grande année. Mais même si elle ne l'est pas, même si ça ne l'était pas, même si, encore une fois si je peux dire, on va retraverser les mêmes choses et on va repasser cette année une année normale. Est-ce que c'est une raison pour laisser tomber? Est-ce que c'est une raison pour ne plus être passionné, pour ne plus être excité, enthousiaste pour l'œuvre qui doit être faite? Est-ce que c'est une raison pour ne plus donner le meilleur de nous-mêmes quand on vient à l'église le jeudi, dans la prière? Est-ce que c'est une raison pour ne plus donner le meilleur de nous-mêmes quand on vient le dimanche pour louer le Seigneur? Même si ça n'est pas une raison pour laisser tomber ce feu, pour laisser ce feu s'éteindre, pour laisser cette passion s'endormir. La passion, cette passion, c'est ça qui va amener le réveil dans notre église. Le réveil, il est là, à la porte. Tout ce qui manque, c'est notre passion pour le faire entrer. La passion, c'est s'attendre avec excitation, avec enthousiasme, avec beaucoup d'expectatives, et de savoir qui va être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce que ça sera Emmanuel? Est-ce que ça sera Emma? Clémence? La passion, c'est s'attendre avec excitation pour voir combien de nouveaux on va avoir dimanche prochain. Est-ce que les amis que j'ai invités vont venir dimanche pour écouter la chorale chanter, pour écouter le pasteur prêcher, pour sentir la présence du Seigneur? La passion, c'est s'attendre avec excitation à savoir combien de personnes on va baptiser cette année. Est-ce qu'on va battre des records? Est-ce qu'on va, au lieu d'en baptiser deux par an, on va en baptiser deux par mois, deux par semaine, deux par réunion? C'est ça la passion. La passion, au lieu de rester chez moi le jeudi, c'est venir à l'église pour prier, pour intercéder, pour me battre dans l'esprit, pour prier pour l'église, pour prier pour le pasteur, prier pour la chorale, prier pour cette ville. La passion, c'est pas seulement venir le dimanche à 10h, c'est venir à 9h30 pour prier. La passion, c'est se lever plus tôt le dimanche. Je suis remonté aujourd'hui. Hier, on avait Yeroun et Yona, et ils ont eu la chance d'aller chez les parents d'Yeroun pour le week-end. Et Bart, le frère de Yeroun, sa femme, était avant dans une église en Allemagne, et le pasteur de cette église a été à Because of the Times cette année, au mois de janvier, aux États-Unis. C'est une très grosse conférence pour les pasteurs, les missionnaires. Et donc, il est revenu avec tous les DVD. Donc, hier soir, j'ai copié tous les DVD pendant qu'Yeroun et Yona étaient chez nous. Et ce matin, au lieu de mettre un CD, j'ai pris le premier DVD qui est passé, je l'ai mis dedans, j'ai allumé la télé, j'ai mis le DVD, on a déjeuné devant, j'ai repassé ma chemise devant la télé. Il y avait le prédicateur qui était en train de prêcher, je repassais ma chemise, on a déjeuné devant la télé, et ça m'a... Donc, je suis remonté aujourd'hui. La passion, c'est peu importe dans quel état je suis, si je suis malade, si je suis découragé, si je suis abattu, si on a cambriolé ma camionnette. Peu importe s'il est tard, si je suis fatigué, je dois quand même aller à l'église à 9h30 pour prier. Je dois quand même aller dans la présence du Seigneur pour recevoir ce dont j'ai besoin, pour aider quelqu'un à être béni, pour entendre sa parole, pour écouter la chorale, pour louer Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. C'est ça la passion. C'est pas rester à la maison malade, c'est pas rester à la maison découragé, c'est pas rester à la maison fatigué, c'est dire peu importe, je dois aller dans la maison du Seigneur. Je vais conclure avec un verset. Psaume 69, verset 9. David parle et il dit, car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Le premier verset qu'on a lu dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Est-ce que nous avons soif ce matin? J'aimerais qu'on puisse se lever. Est-ce qu'on a soif ce matin? Est-ce qu'on est comme cette biche qui soupire après ces courants d'eau? Est-ce qu'on est comme ce psalmiste, tout ce qui l'intéresse, tout ce dont il vit, les raisons pour lesquelles il vit, c'est pour pouvoir être dans la présence du Seigneur, c'est pour avoir cette passion qui brûle en lui. Est-ce que nous avons soif ce matin? C'est la question que j'aimerais qu'on puisse se poser. Où est ma passion? Où est ma soif? Où est ma faim? Est-ce que je suis devenu tellement confortablement installé dans ma routine de chrétien? Et je viens à mon petit culte le dimanche, je viens de temps en temps le jeudi, je mets un petit peu dans la collecte, je dis bonjour au pasteur, et je suis content, j'ai passé un bon dimanche. Ou est-ce que le simple fait de venir à la réunion, c'est juste le sommet de l'iceberg, parce qu'en dessous, il y a beaucoup plus qui brûle, qui me dévore, qui me pousse tous les jours. Où est-ce qu'on est ce matin? Où est notre passion? Où est notre soif? Où est notre désir ardent de vouloir sauver des âmes, de vouloir bénir l'Église, de vouloir voir cette Église grandir, atteindre les sommets, atteindre ce que Dieu veut que nous puissions atteindre, atteindre cette ville, voir toutes ces âmes, ce peuple nombreux que Dieu nous a promis. Est-ce qu'on a cette passion ardente ce matin? Ou pas? J'ai besoin de cette passion. Je suis loin d'avoir autant de passion que je devrais. Ce matin, la question que Dieu nous pose, c'est où est ta passion? Est-ce que tu veux réveiller cette passion? Est-ce que tu veux devenir ou redevenir passionné? C'est la question que Dieu pose ce matin. Et Si nous voulons répondre à cette question, si nous voulons nous humilier, venir aux pieds du Seigneur pour retrouver cette passion, je vous invite à vous avancer à l'autel. Tout ce qui importe dans nos vies, dans notre vie, pour le succès de notre Église, c'est notre passion à chacun d'entre nous. C'est tout ce qui importe. Et c'est la question que Dieu nous